Je vais vous parler du fonds musical de la BAI pour vous dire un peu ce qu'on peut en savoir, mais pour beaucoup, ce qu'on ne peut pas en savoir. Et pour cela, je vais m'appuyer sur les différents catalogues dont on a la trace ici, qui sont restés ici. Alors, ce qu'on peut en savoir, un an après la fondation de la bibliothèque, le catalogue de 1862 nous apprend que sur 867 ouvrages, il en existe 11 en rapport avec la musique, soit 1,3%. Toujours 11 ouvrages concernant la musique dans le catalogue de 1875, qui pourtant, lui, dénombre 2462 ouvrages répertoriés. Donc, de 1,3%, nous passons à 0,4%. Mais en 1909, sur 5063 ouvrages, il en existe 52 en rapport avec la musique. Nous verrons tout à l'heure à quoi est due cette véritable déferlante. Mais elle ne fait pas exploser quand même le score par rapport à l'ensemble, on atteint seulement 1%. Le catalogue de 1920 est le premier à diviser le secteur musique en sous-catégories. On se situe autour de 80 titres qui concernent la musique pour 8084 ouvrages, soit 1,1%. Et le catalogue général informatisé, que vous pouvez consulter en ligne, dénombre 81 ouvrages sur la musique, alors que le nombre total de titres a largement doublé, ce qui s'exprime par un pourcentage de 0,5%. Autrement dit, le score de 1,3% de 1862 n'a jamais été dépassé. Mais nous n'allons certainement pas nous laisser ainsi gouverner par les nombres. Alors là, je vous glisse une référence totalement externe à la musique, la gouvernance par les nombres de Alain Supiot, édition Fayard 2015. Ça n'a aucun rapport avec la musique, mais c'est un ouvrage très recommandable. Donc, nous n'allons pas nous laisser guider par le bout du nez par les nombres et déduire, par exemple, que les appétits des sociétaires qui fréquentait la bibliothèque des Amis de l'Instruction à sa fondation, révélait une mélomanie spectaculaire par rapport au suivant. Non. D'ailleurs, étaient-ils, ces sociétaires, à l'origine de la présence de ces 11 ouvrages ? S'agissait-il d'achats effectués à leur demande ou bien de dons qui ont été faits à la bibliothèque, comme il y en a eu tout au long de son histoire ? De quoi est fait ce lot originel ? Eh bien, je ne vais peut-être pas répondre tout de suite à ces questions, pourtant très pertinentes, que vous vous posez. En effet, après l'exploration par les nombres, je vous invite à une exploration par les matières ou les sujets, si l'on préfère. Quand on pense actuellement à une bibliothèque généraliste et à son fonds musical, je parle bien d'une bibliothèque, hein, pas d'une médiathèque, on pense à des livres sur l'histoire de la musique, des livres sur les différents genres, l'opéra, la musique de chambre, la musique symphonique, la chanson, des livres sur les compositeurs, des livres sur les interprètes. Or, il se trouve que ces types d'ouvrages sont très peu présents à la BAI. Il n'y en a pas un seul dans le catalogue de 1862. Dans le catalogue de 1875, on trouve deux livres de Jean-Jacques Rousseau, qui datent, eux, de plus d'un siècle. Ce sont ses écrits sur la musique et son dictionnaire sur la musique. Et je vais m'arrêter un peu là-dessus. C'est peut-être le moment de rappeler que Jean-Jacques Rousseau avait souhaité faire une carrière musicale, que c'est le seul domaine dans lequel il a eu une véritable formation. Et il a eu des activités de copiste de musique pendant une grande partie de sa vie. On raconte qu'à la fin de sa vie, il gagnait de l'argent en faisant des copies de partitions. Il s'est essayé à la composition et il avait des idées sur la musique qu'il a défendues, peut-être avec encore plus d'âpreté encore que ses idées dans d'autres domaines. Et il les exprime, ses idées, dans ses écrits sur la musique qui sont très marqués par les querelles de son époque, c'est-à-dire les années 1750-1760, en particulier contre Jean-Philippe Rameau. Alors pourquoi l'entrée de ces ouvrages à la bibliothèque un siècle plus tard ? J'avoue que je suis très sceptique sur un achat délibéré pour étoffer le fonds musical. Peut-être s'agit-il d'un don, ou alors peut-être une acquisition dans le but d'avoir un panorama complet sur les œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Alors, pour continuer avec ces livres qui, pour nous, sont évidents, constituent la base d'un fonds musical, nous allons explorer le catalogue de 1909. Non seulement il ne contient aucun de ces volumes qui pourraient correspondre à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais on constate la disparition des deux ouvrages de Rousseau. Alors rassurez-vous, ils réapparaissent dans le supplément de 1912, qui par ailleurs répertorie un livre intitulé « Les époques de la musique » de Camille Bélègue, mais c'est plus un recueil d'articles qu'une réelle histoire de la musique. Il faut attendre le catalogue de 1920 pour voir apparaître dans l'ensemble musique une catégorie d'ouvrages intitulée « Théorie, histoire et critique musicale ». Beaucoup des volumes qui la composent sont très anciens. Ce sont certainement des dons qui ont été faits à la bibliothèque. J'en donnerai un exemple. Il y a un monsieur Galin qui a écrit une exposition d'une nouvelle méthode pour l'enseignement de la musique qui date de 1818, qui n'a jamais joui d'une notoriété particulière. Il y a aussi une histoire de la musique par M. Lavoie fils, qui est tombé dans l'oubli. Mais, plus notable, nous avons « La musique, ses lois, son évolution » de Jules Combarieux. C'est resté longtemps un ouvrage de référence. Jules Combarieux a été professeur d'histoire de la musique au Collège de France et c'est lui qui a fondé la Revue musicale. C'est une importante revue qui est restée tout au long du XXe siècle. Également répertorié dans le catalogue de 1920, le Beethoven de Romain Rolland, publié en 1910. Je crois qu'il a toutes les chances d'être un achat délibéré, ne serait-ce qu'en raison de la notoriété de Romain Rolland dans les milieux populaires cultivés. À l'appui de cette notoriété, son roman Jean-Christophe, dont le héros est un musicien, qui a été publié d'abord en feuilleton dans la revue littéraire Les Cahiers de la Quinzaine, et qui est devenu une sorte de bible pour le milieu des ouvriers et petits employés progressistes épris d'art et de culture. Il y en a 4 exemplaires à la BAI de Jean-Christophe. À part ce livre sur Beethoven et un sur Schumann, il n'y a pas d'autres monographies de compositeurs. Il y a aussi un ouvrage d'Hector Berlioz qui s'appelle « Les musiciens et la musique ». C'est une sorte d'essai sociologique par le compositeur lui-même. C'est dans les années suivantes que ce genre, la monographie sur un compositeur, s'étoffera un peu. Le catalogue général, à présent informatisé, fait état de 3 livres sur Beethoven, en plus de celui de Romain Rolland, mais leur ancienneté me fait plutôt pencher pour des dons. Plusieurs livres sur Berlioz, dont l'ouvrage de référence d'Adolphe Beauchaud, d'abord dans une version en 3 volumes, puis en 1 volume qui réunit les précédents. Là, je pencherai plutôt pour un achat. 2 ouvrages sur Chopin et une dizaine de livres, souvent des études, sur Wagner, qui témoignent de l'importance que le compositeur allemand, dont l'opéra est le genre quasi exclusif, de l'importance qu'il a eue en France et souvent dans des contextes polémiques. Mais on ne connaît rien quand même sur les raisons précises de cette entrée en nombre dans les rayons de la bibliothèque. Enfin, il y a 3 ouvrages qui concernent les 2 grands noms de la musique française des premières décennies du XXe siècle, Debussy et Ravel. Le premier, c'est « Monsieur Croche anti-dilettante » qui regroupe les articles écrits par Claude Debussy en tant que critique musicale pour la Revue Blanche. Sur l'œuvre de Debussy lui-même, on a un livre de Robert Jardillier à propos de son opéra « Péléas et Mélisande ». Et sur Maurice Ravel, on a l'ouvrage de référence de Roland Manuel intitulé « Maurice Ravel, son œuvre dramatique ». Je vois derrière ces titres soit le don d'un mélomane averti, soit ses conseils d'achat. Voilà, on peut ajouter à ce premier panorama les articles sur des sujets musicaux qui figurent dans le magasin pittoresque, dont on a toute la collection. À noter aussi que c'est dans le magasin pittoresque qu'on trouve des articles sur les arts plastiques qui, ceci mis à part, sont également peu représentés en monographie, par exemple, dans la bibliothèque. Donc, si on récapitule, 1 ou 2 livres d'histoire de la musique, une petite 20aine de monographies sur des compositeurs ou certaines de leurs œuvres, les 2 livres de Jean-Jacques Rousseau, les articles de Claude Debussy. Il ne faut quand même pas que j'oublie ce qu'on appellerait aujourd'hui une théorie de la musique. Autrement dit, un livre qui expose, comme le dit son titre, les principes de la musique. Autrement dit, le chemin initiatique que connaissent tous les apprentis musiciens dans les domaines de la musique dite classique. Alors, ce chemin initiatique est revisité suivant les modes pédagogiques de leur époque. Ça va du solfège pur et dur aux méthodes actives, en passant par la grande illusion du ludique. Mais grosso modo, on coche les mêmes cases, à savoir la portée, le nom des notes, les clés, les figures de durée, les gammes, les tonalités, les accords, la transposition, etc., etc. Alors, ces principes de la musique figurent dans le premier catalogue, celui de 1862. En l'occurrence, il s'agit d'un ouvrage très récent puisqu'il est sorti en 1861. Il est donc immédiatement entré à la bibliothèque. Il me semble que dans ce cas, c'est l'un des rares, on peut quand même conclure à un achat délibéré si on estime que le principe a été à la fondation. On a des livres qui apportent des connaissances de base dans diverses disciplines et qui pour nous aussi du côté musique. Ça serait assez vraisemblable. L'auteur de cette théorie de la musique, Augustin Savart, était professeur de solfège, d'harmonie, d'accompagnement au Conservatoire de Paris. Autrement dit, c'était le nec plus ultra dans le domaine. Parmi ses élèves, on trouve Jules Massenet. Voilà. Alors, j'en ai terminé avec ce qui constitue, à nos yeux, le fond musical classique d'une bibliothèque généraliste. J'ai pas compté, mais s'il y a 30 titres, c'est vraiment le maximum. Alors, comment se fait-il que le catalogue général de la bibliothèque répertorie 80 volumes sur la musique ? En tentant de répondre à cette question, je vais revenir au catalogue de 1862 et retrouver l'interrogation que j'avais laissée en suspens, à savoir de quoi est fait ce lot originel de 11 ouvrages. Alors, on sait maintenant, sur ces 11 ouvrages, qu'il y a une théorie musicale, mais les 10 autres. Eh bien, ce sont des partitions. Et essentiellement, des partitions d'opéra, dans lesquelles on a la partie d'orchestre qui est réduite pour le piano sur deux portées, et au-dessus de ces deux portées, on a celle du chant avec des paroles, avec autant de chanteurs qu'il y a. Si c'est un solo, on a une seule ligne. Si c'est un chœur, on a quatre lignes, etc. Si on s'intéresse à l'histoire de l'arrivée de ces partitions dans le fond de la bibliothèque, on n'a strictement aucune indication. Est-ce qu'il s'agit de dons ? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il s'agit d'achats ? C'est pas totalement à exclure. En effet, à qui pouvaient servir ces partitions ? Dans une étude sur l'opéra en France, du consulat à la Troisième République, un musicologue, qui s'appelle Hervé Lacombe, qualifie ces réductions pour piano et chant de premiers produits dérivés de l'art lyrique. Il écrit: la transcription pour piano, qui permet de donner en un format concentré l'harmonie et la mélodie de tout opéra, joue dans la société du XIXe siècle le rôle qu'occupera le disque plus tard. Elle permet de goûter à sa guise une œuvre, d'en réentendre des extraits ou d'en suivre le déroulement. L'œuvre vit désormais dans la mémoire sur laquelle reposent les produits dérivés. Écouter, c'est réentendre. Apprécier une mélodie, c'est retrouver le plaisir déjà éprouvé qui lui est associé. Alors, à une époque où en effet l'enregistrement n'existe pas, mais où la possession d'un piano et son apprentissage vont se répandre comme une traînée de poudre dans les milieux aisés, ces condensés d'opéra sont un énorme outil de découverte ou de remémoration. Et sans doute, les éditeurs de musique ont-ils fait une étude de marché avant de se lancer dans la commercialisation de ces partitions, qui sont importantes, qui sont volumineuses. À qui peuvent-elles servir ? Elles peuvent servir aux accompagnateurs et aux chefs de chant des opéras qui en ont besoin pour faire travailler les rôles aux chanteurs, quand les œuvres sont données dans des lieux de représentation. Mais aussi, elles servent aux pianistes et aux chanteurs amateurs ou semi-professionnels. Sans doute les éditeurs ont-ils calculé que l'investissement valait la peine puisque tout leur répertoire lyrique a connu ce mode d'édition. Et pourquoi le retrouve-t-on comme composante majoritaire du fonds musical d'une bibliothèque de prêt ? Alors, peut-être pas pour l'usage du sans doute très petit nombre de sociétaires susceptibles de jouer la réduction au piano et d'inviter des copains à chanter les différents rôles. On ne se situe pas dans les classes les plus aisées de la société. Mais pourquoi pas à des amateurs d'opéra désirant mieux suivre une représentation, non pas en déchiffrant la partition musicale, mais en suivant le texte. Ceux-là sont vraiment susceptibles d'emprunter l'ouvrage à la bibliothèque. On va s'arrêter un peu sur le public d'opéra. Bien sûr, il est très largement composé de membres de la bourgeoisie, mais il accueille aussi des amateurs moins fortunés. Sinon, pourquoi y aurait-il de très mauvaises places, quasiment sans visibilité, mais peu chères? Pour revenir à nos partitions, n'oublions pas que le surtitrage n'existait pas et que même dans la langue du pays, la compréhension des paroles n'est pas forcément évidente à l'opéra. Or, les livrets d'opéra n'étaient pas vendus seuls. Donc, ces éditions de réduction piano-chant étaient la seule solution, soit pour lire l'histoire à l'avance, soit pour suivre les paroles tout en ayant un œil sur la scène, voire pas d'œil du tout, pour les raisons évoquées précédemment. Alors, en ce qui concerne le rapport entre la date de composition des œuvres et l'entrée de la partition à la bibliothèque, elle ne me semble pas très significative. La relation serait plutôt à faire avec la programmation des œuvres dans les salles parisiennes. Alors, je vais vous proposer de profiter de l'occasion pour jeter un œil et une oreille sur les titres qui sont présents. Nous avons La muette de Portici de Daniel François Esprit Aubert, qui a connu un énorme succès en 1828 à l'Opéra de Paris. C'est ce qu'on appelle le grand opéra à la française, avec un sujet historique traité à la manière d'une grande fresque épique qui explore tous les ressorts du drame, des sentiments nobles. Et on considère que la première représentation de la muette de Portici à Bruxelles aurait été à l'origine de la révolution de 1830 en Belgique. En effet, au théâtre de la Monnaie eut lieu une représentation à l'occasion des 58 ans du roi Guillaume. Et l'assistance vit une similitude entre la situation du peuple belge et cette œuvre qui raconte la révolte du peuple de Naples contre la domination espagnole au XVIIe siècle. Ce qui n'est pas sans évoquer le rôle que les opéras de Verdi joueront dans le cadre des luttes précédant l'unité italienne. Je vous propose d'écouter un duo de la muette de Portici qui avait échauffé un public enthousiaste avec ses paroles « Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté, à mon pays je dois la vie, il me devra sa liberté. »
Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté, à mon pays je dois la vie.
Alors moi, je ne suis pas persuadée des vertus intemporelles de cette musique pour faire sortir le peuple dans la rue, n'est-ce pas ? Autre partition, dans le catalogue de 62, autre partition, celle de Robert le Diable, de Meyerbeer. Cet opéra a été un des plus grands triomphes de tous les temps, puisqu'il n'existe pratiquement pas une seule maison d'opéra en Europe qui ne l'ait représenté dans les 10 ans suivant sa création en 1831. Et l'incroyable succès remporté par cet opéra français se reflète également dans le fait qu'il y a eu plus de 160 transcriptions, arrangements, paraphrases et autres fantaisies pour orchestre, fanfare, piano et autres instruments, signés Liszt, Chopin, Strauss, Offenbach, entre autres. Ça, c'est typique d'une salle d'opéra. Ces applaudissements d'un public d'opéra comblé répondent à ce qui est l'ambition de l'opéra, sa mission, qui est de donner par les voies d'une accumulation le maximum de plaisir. Et Meyerbeer, dont vous pouvez écouter des opéras sur le web, accumule les airs à prouesse vocale, les chœurs à effet, les prétextes à démonstration sonore et scénique. C'est le compositeur d'opéra le plus célèbre, le plus joué au XIXe siècle. Alors, son origine allemande et ses études solides d'écriture pour orchestre, ses premiers opéras qui sont inspirés de Rossini, son souci de la langue française, l'amènent à devenir vraiment un maître de l'accumulation des plaisirs. Il faut dire qu'à l'opéra, si on excepte Wagner et Debussy, sur lesquels je reviendrai plus tard, on n'est pas tellement dans le domaine des grandes mutations du langage musical. On n'est pas dans l'invention harmonique et rythmique. On est plutôt dans l'agencement d'expressions musicales bien rodées au service d'un art total qui fait appel au théâtre et aux arts du décor. Toujours dans ce premier catalogue, on a la partition piano-chant de Guillaume Tell de Rossini, qui a été créée en 1829 à l'Opéra de Paris. Alors je vous rappelle que la salle de l'Opéra à cette époque n'était pas où elle est maintenant, c'était rue Lepelletier, et ce n'était pas le bâtiment de Charles Garnier que l'on connaît, qui a été inauguré en 1875. Là, je vous ai parlé de partitions concernant des œuvres dont les titres et les noms d'auteurs n'ont pas totalement disparu et qui même ont été reprises dans les dernières décennies. Mais il en est de plus obscur, en tout cas pour moi. Il y a par exemple Martha, Oder der Markt zu Richmond, Martha ou le marché à Richmond. C'est un opéra comique romantique en quatre actes de Friedrich von Flotow. On en trouve des extraits sur YouTube et à vrai dire, on n'est pas très étonné qu'il ait bien à recrocher les oreilles des auditeurs de l'époque, car les mélodies sont faciles à retenir, même sans les avoir dans son smartphone. Ce qui est intéressant avec cet opéra, c'est qu'il illustre la politique caméléon de l'époque. La notion de langue première d'une œuvre est assez élastique. Le livret original est en allemand. Mais l'œuvre est donnée à Paris d'abord en italien, en 1858, et puis toujours à Paris en 1858 en français. Si on rapproche les deux dates, celle de la création de 1858 et celle du catalogue de 62, on voit que c'est carrément une nouveauté. Autrement dit, à la BAI, on est branché. Autre nouveauté de l'époque, les Dragons de Villars, opéra comique composé par Aimé Maillard. Tu as l'air de connaître ?
Oui, tu connais ? Je connais le nom des Dragons de Villars.
Ah là, alors, je suis sidérée. Ah oui, alors, elle a eu beaucoup de succès, encore cette œuvre. Elle a été reprise 153 fois au Théâtre Lyrique en 1863. Et on peut noter que ce Théâtre Lyrique n'était pas très loin d'ici. C'était un théâtre privé qui était 72 boulevard du Temple. Cet opéra est devenu populaire dans toute l'Europe, hein, les Dragons de Villars. Ça a été mis en scène à la Nouvelle-Orléans et à New York. Autre catégorie d'ouvrages musicaux dans le catalogue de 1862, toujours des partitions, des recueils de divers auteurs intitulés « Répertoire du chanteur baryton », « Répertoire du chanteur basse-taille », c'est à peu près la même tessiture que baryton, « Répertoire du chanteur ténor », « Choix de chœur d'opéra ». Alors j'ai noté que ces choix de chœurs d'opéra font partie d'une collection intitulée « Répertoire des Orphéons et des sociétés chorales ». Si Louise Houdin était là, elle nous parlerait des Orphéons, lieu de rencontre, et de Frédéric Herbst et son piano, et des chants qui terminaient les réunions dans la BAI du 14e arrondissement. Alors peut-être y avait-il aussi à la bibliothèque du 3e arrondissement des fins de soirée chantantes. Alors là encore, le flou règne sur les raisons de l'entrée de ces ouvrages au catalogue. Est-ce que c'est le don d'un professeur de chant partant à la retraite, ou le geste généreux de candidats à la gloire déçus dans leurs ambitions lyriques ? On ne le sait pas. Peut-être des achats répondant au désir d'élévation de la sensibilité artistique des sociétaires. Rien ne permet de le conclure. On a aussi un recueil d'airs de divers auteurs qui composent le volume, un volume de La Clé du Caveau. On avait eu ici une conférence de Gérard Carreau qui nous avait expliqué que La Clé du Caveau, c'était un recueil de chansons nouvelles à interpréter sur des airs préexistants. Donc tout le monde connaissait les airs préexistants, on pouvait adapter de nouvelles paroles. Pourquoi ne pas imaginer alors quelques réunions musicales à la BAI mettant collectivement en pratique ce mode d'expression ? C'est une supposition toute gratuite, mais qui a l'avantage de faire travailler notre imagination. Alors voilà, me semble-t-il, tout ce qu'on peut dire du fonds musical de la BAI dans ses premières années. Je voudrais souligner qu'il s'agit quasiment exclusivement d'ouvrages de pratique, d'usage, en l'occurrence ici par exemple « Poursuivre une représentation », tout comme d'ailleurs les ouvrages qu'on trouve dans la rubrique « Beaux-arts », qui sont des ouvrages sur le dessin, sur la technique du dessin, et aucun sur l'histoire des arts plastiques, du dessin, de la peinture, de la sculpture ou des artistes. Notre prochain outil d'exploration va être le supplément que constitue le catalogue de 1868. 5 nouveaux ouvrages font leur apparition, dont 3 partitions d'opéra piano-chant, appartenant tous au genre du grand opéra à la française. Il y a « La Juive » de Fromental Halévy, créé en 1835 sur un livret d'Eugène Scribe. Il évoque de grandes passions dans une grande fresque historique qui se prête à de grandes mises en scène fastueuses et nécessite de grands chanteurs, comme vous allez vous en rendre compte en écoutant l'air le plus célèbre de « La Juive » de Fromental Halévy, qui s'appelle « Rachel, camp du Seigneur ». Et je vais distribuer les partitions, n'est-ce pas ? Vous allez suivre. Cet air évoque le désespoir d'un père qui n'a pas réussi à sauver sa fille de la mort. Alors, « Rachel, camp du Seigneur ». L'un des personnages de La Recherche du Temps Perdu se prénomme Rachel. Et Proust lui donne le surnom de « Rachel, camp du Seigneur ». Cela signifie bien que c'est une référence qui est compréhensible de la majorité des lecteurs, donc que c'est un opéra, sinon populaire, du moins connu de beaucoup de personnes jusqu'au début du XXe siècle. Pour en revenir à l'air Rachel, camp du Seigneur, je n'ai pas résisté au plaisir d'un court extrait par 3 ténors différents. Nous allons jouer au jeu des comparaisons d'interprétation.
Rachel, quand du Seigneur, la grâce du télère, à mes tremblantes mains, confie à ton berceau. J'avais à ton bonheur voué ma vie entière.
C'était Georges Till dans les années 50, je pense. On n'a pas la date exacte de l'enregistrement.
Rachel, camp du Seigneur, la grâce tutélaire, à mes tremblantes mains, confie à ton berceau. Ma vie
Alors là, nous étions avec Roberto Alagna en 1997. Et dernière interprétation.
Rachel, pour du Seigneur, la grâce t'itère.
Vous avez envie de faire des commentaires. C'est Jonas Kaufmann, chanteur allemand. Il prononce magnifiquement bien le français. Moi, j'aime beaucoup le premier, je dois dire. Je trouve qu'il y a une simplicité de ligne. Bon, mais
c'est... ça me touche beaucoup.
Alors, à propos de cet air-là, on dit que le ténor qui était créateur du rôle, qui s'appelait Adolphe Nourry, il a fourni lui-même à Scribe les paroles de l'air parce qu'il voulait choisir les syllabes les plus sonores et les plus favorables à sa voix. Alors, parenthèse, avant de quitter la juive de Fromental à Lévis, je voudrais vous signaler une émission récente et très intéressante qu'il y a eu dans la série Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet sur France Culture. Elle a été consacrée à la famille à Lévis. Alors, ne serait-ce que dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, la musique, cette famille s'est illustrée par deux de ses membres. Il y a donc Fromental à Lévis. Pourquoi, parenthèse dans la parenthèse, pourquoi ce prénom à la résonance républicaine qui désigne le septième jour du mois de Prairial ? C'était le jour de la naissance d'Alévi. Eh bien parce qu'à son arrivée en France, le fondateur de la dynastie des Alévi dans notre pays a voulu signifier son allégeance à la République. Donc Fromental Alévi, compositeur, et puis l'autre Alévi en rapport avec la musique, c'est Ludovic Alévi, qui est associé à Henri Mélac, et ça forme le célèbre binôme Mélac et Alévi, à qui l'on doit les riverains de Carmen de Bizet, de la Belle Hélène, etc. Donc cette émission sur la dynastie des Alévi est passée le samedi 27 mai sur France Culture à Concordance des temps. Bon, je ferme toutes les parenthèses. Alors, toujours dans les partitions d'opéra piano-chant entrées au catalogue de 1868, il y a le Trouvère de Verdi, à l'origine en italien, puis traduit en français, remanié pour correspondre au goût du grand opéra à la française. Et puis, il y a la Favorite de Donizetti, encore un grand opéra, mais là, le livret original, bien que Donizetti soit italien, était cette fois-ci en français. Dans ce supplément de 1868, il y a deux autres ouvrages de pratique musicale avec des partitions. On se soucie des pianistes, puisqu'ils peuvent emprunter les 19 sonates pour piano de Mozart, à cette réserve près qu'il n'en a composé que 18 et que l'éditeur en a confectionné une 19e, en assemblant d'autres pièces de Mozart. Je ne serais pas étonnée que cette partition, seule dans son genre, soit un don. Mais les pianistes, avant de jouer Mozart, doivent apprendre à maîtriser l'instrument. C'est ce que propose la méthode de piano de Franz Hünten. Là, on prend en flagrant délit de négligence les rédacteurs du catalogue de 1868 qui ont écrit Hunter au lieu de Hünten. Franz Hünten, né en Prusse, avait fait ses études de piano et de composition au Conservatoire de Paris. Il s'était marié en France et il semble que ses compositions pour piano et sa méthode d'apprentissage lui est valu d'amasser une fortune considérable. Alors, quelle a pu être la vie de cette méthode de piano à la BAI? Elle est présente dans tous les catalogues jusqu'à celui de 1920 où elle ne figure plus. Alors, est-ce que son emprunteur a entrepris des études particulièrement longues et laborieuses, peut-être, mais il a finalement rapporté le volume car il est toujours ici, vous pouvez l'emprunter si vous voulez. Alors nous allons reprendre notre itinéraire musical à travers les catalogues pour examiner celui de 1875. Alors là, les recueils d'air pour basse, baryton, ténor, les recueils de chœurs d'opéra ont beaucoup plu puisqu'ils ont été empruntés sans retour. Idem pour le recueil de la clé du caveau, qui a trouvé des parents d'adoption. Heureusement, il reste les partitions d'opéra qui étaient déjà là, mais rien de nouveau par rapport à 1868, pas de nouvelle acquisition. Là, c'est vraiment le désert. Les contenus des catalogues que nous possédons pour la BAI nous font passer de 1875 à 1909. Dans le recueil de 1909, le recueil de chœurs d'opéra a fait sa réapparition, peut-être rendue par un emprunteur pris de remords. On constate là une déferlante de partitions piano-chant du répertoire lyrique. Il faut dire que pendant ces presque 35 années qui se sont déroulées depuis le fonds musical répertorié en 1875, le genre lyrique a largement investi l'actualité musicale et les salles parisiennes où on en donne sont très nombreuses. Il y a le Nouveau Théâtre Lyrique de la Place du Châtelet, la Gaîté Lyrique, le Théâtre des Bouffes Parisiens, l'Éden Théâtre, beaucoup d'autres petites salles qui donnent des œuvres lyriques, sans compter les grandes institutions nationales. Et c'est un sujet qui serait vraiment à traiter à lui tout seul. Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion au niveau des dates, il faut bien avoir en tête que ces partitions qui sont présentes dans le catalogue de 1909, d'abord, peuvent être entrées à la bibliothèque bien plus tôt, ensuite, concernent des œuvres elles-mêmes très antérieures, même antérieures pour la plupart au catalogue de 1875. Par exemple, les opéras bouffes d'Offenbach s'étagent de 1855 à 1874. Mais toutes ces œuvres sont jouées, rejouées, rejouées. Sur certaines des partitions, on voit que la distribution du spectacle auquel l'emprunteur a assisté a été notée au crayon, par exemple. Bon, ça n'exclut pas la possibilité que ça puisse être un don, mais on est toujours dans le domaine des suppositions. Alors, nous avons Rigoletto de Verdi, ce recueil-là qui a été annoté. Alors, en hommage à ce lecteur amateur d'opéra, je vais vous faire écouter l'air le plus célèbre, sans doute, de Rigoletto. Fabiano, c'est un enregistrement récent de 2020 et le deuxième Alain Vanzo, 1961. Alors, dans ce catalogue de 1909, la liste des opéras comiques est très importante. Voilà plusieurs fois que je prononce ces mots, opéra comique. Il est sans doute inutile que je précise ce qu'il désigne, mais je vais le faire quand même. L'opéra comique n'est pas un genre destiné à faire rire le public. C'est un opéra qui comporte des passages parlés. Ainsi, Carmen de Bizet, qui figure d'ailleurs dans le catalogue de 1909, qui n'est pas spécialement à se tordre de rire, est un opéra comique parce qu'il y a des passages non chantés. Donc, dans ce catalogue de 1909, beaucoup d'opéras comiques. Vous penserez sans doute que la salle Favart, qu'on appelle la salle de l'opéra comique, n'accueille que des opéras comiques. Non, ce serait trop simple. Et il n'y a pas forcément de cause à effet, car on donne des opéras comiques à l'opéra comique, mais pas que. Alors, j'espère que vous allez me suivre là. Mireille de Goudon, par exemple, était donnée à l'opéra comique, alors que c'est un opéra entièrement chanté. La salle Favart, en fait, accueille de façon générale des œuvres lyriques dont le sujet est moins noble, moins historique, plus léger que celles qui sont jouées à l'opéra, ou bien des œuvres qu'on juge a priori moins prestigieuses que celles qui peuvent entrer à l'opéra. Alors, puisque je sens que vous appréciez la rigueur de classification des genres musicaux, je vais continuer avec le genre de l'opérette, qui est bien représenté encore dans le catalogue de 1909, avec par exemple La fille de Madame Angot, Le petit duc de Charles Lecoq, et puis le genre de l'opéra bouffe, alors là on peut rigoler, qui est illustré par quatre partitions d'Offenbach, Les Bavards, Les deux aveugles, La grande duchesse de Gerolstein et Orphée aux enfers. Ça serait peut-être l'occasion de faire la distinction précise entre les deux genres que je viens de nommer, à savoir l'opérette et l'opéra bouffe, mais les définitions, là aussi, sont tout sauf claires. D'ailleurs, chez Offenbach, il est un peu réducteur de ne parler que d'opéra bouffe ou d'opérette, alors qu'on peut raffiner avec opéra bouffon, opérette bouffe, opérette comique ou encore bouffonnerie. Alors nous n'allons pas nous encombrer avec toutes ces distinctions, disons simplement que l'opéra bouffe se place sur le plan du contenu, c'est un opéra drôlatique, rien à voir donc avec l'opéra comique, qui peut être sérieux voire tragique. Quant à l'opérette, en gros et pas en détail, le terme est utilisé surtout à partir du XXe siècle et il désigne des œuvres dites légères. Mais le panorama lyrique du catalogue de 1909 ne s'arrête pas là, il y a aussi l'opéra, sans autre qualificatif. Alors, du côté de ceux qui sont dès l'origine en français, on a Les Troyens de Berlioz, qui date de 1863. C'est une œuvre tardive de Berlioz qui est magnifique, qui est méconnue, qui n'a peut-être pas pu trouver sa place entre la grosse artillerie de Meyerbeer et la radicale nouveauté de Wagner. En tout cas, la partition piano-chant des Troyens est là. Gounod est aussi présent avec Mireille et aussi avec Roméo et Juliette. Alors je vous propose d'écouter la fin du duo qui clôt la première nuit d'amour des amants. Le duo d'amour, c'est l'un de ces moments privilégiés de l'opéra, d'un de ces moments d'accumulation destinés à donner du plaisir. Que le sort qui de toi me sépare, plus que la mort est cruelle et barbare, il faut partir hélas, il faut quitter ses bras, ou elle me presse, ou je te presse, et c'en est fait de t'arracher, de m'arracher à cette ardente ivresse. Adieu ma Juliette, adieu, adieu.
Adieu.
Voilà, alors on a bien ici la jouissance pour l'exploit vocal, avec l'exploitation des aigus, l'orchestre qui, au sens propre, en rajoute dans le même sens. Il y a une espèce d'unicité de la chose évoquée. C'est peut-être en partant de ça qu'on peut mieux comprendre pourquoi après des compositeurs ont voulu rompre avec cet effet d'unicité, disons. Par exemple avec Wagner et Debussy, à chaque moment, l'opéra est susceptible d'exprimer une chose et sa nuance, une chose et son contraire, ou une chose et la menace qui pèse sur elle. Voilà, c'était une petite parenthèse comme ça. Alors, pour revenir aux opéras en langue française du catalogue de 1909, il y a deux opéras de Meyerbeer, toujours à l'affiche, L'Africaine et Le Prophète. Il y a Le Contori de Rossini. Du côté des opéras sur des livrets à l'origine en langue étrangère, on a La Flûte enchantée de Mozart, dont le livret est en langue allemande. On est sûr que c'est un don parce qu'il y a marqué que c'était une récompense scolaire ou quelque chose comme ça. Il y a Lohengrin de Richard Wagner, Le Freischütz de Weber. Du côté des opéras italiens, on a Les Noces de Figaro de Mozart, Aïda, Hernani et Rigoletto encore de Verdi. Or, dans toutes ces partitions, les parties de chant sont en français parce que les œuvres étaient chantées en français. Il y a une justification d'ordre pratique, voire économique. Comme les distributions internationales étaient rares, la solution de facilité, c'était que les chanteurs français chantent en français. Et la traduction va loin, puisque j'ai remarqué que Rossini, pour son prénom, est gratifié d'un J. Alors allons-y pour Jacques Rossini au lieu de Giacomo Rossini. Alors de nos jours, il est rarissime qu'un opéra en langue étrangère soit donné en français. D'une part, les distributions sont devenues internationales, et puis d'autre part, les études des chanteurs destinés à devenir des professionnels comportent une part très très importante qui est consacrée au répertoire en langue étrangère. Vous avez entendu comme cet Allemand chante le français tout à l'heure. Et puis enfin, le surtitrage ou le sous-titrage résolve définitivement le problème de la compréhension. Fort judicieusement, il est même utilisé, le surtitrage ou le sous-titrage, même lorsque le livret est en français. Car l'intelligibilité des paroles n'est pas forcément évidente. Évidemment, elle est liée aux qualités d'articulation des chanteurs, mais aussi aux registres. Il y a des registres vocaux qui sont plus ou moins où l'intelligence du texte est plus ou moins facile. Et puis, ça dépend aussi des spécificités de chaque spectateur, parce qu'on a parfois des spectres auditifs qui nous rendent les choses dans tel registre compréhensible et pas du tout dans tel autre. Autrement dit, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, donner un opéra de langue étrangère en français, c'est parfaitement injustifié, et de toute façon, ça trahit la relation qu'il y a à l'origine entre le texte et la musique. Mais au XIXe siècle, au début du XXe, le passage à une version en français, c'est le parcours obligé pour accéder à une grande scène parisienne. Alors, par exemple, le Barbier de Séville de Rossini, présent dans le catalogue de 1909, a été donné pour la première fois à Paris en italien le 26 octobre 1819, mais c'était au Théâtre italien. Et puis, c'est un autre compositeur que Rossini, qui s'appelait Castil Blas, qui a réalisé une adaptation française en ajoutant des récitatifs, c'est-à-dire des passages en semi-parlés chantés, empruntés pour la plupart à Beaumarchais. Il a aussi modifié la structure de l'opéra, qui passe de 2 à 4 actes. Et puis, certaines tessitures vocales ont été changées pour s'adapter au goût français. On aimait mieux applaudir des sopranos. Alors, Rosine, qui est mezzo-soprano au départ, hop, on l'a fait grimper en soprano. Et ensuite, il y a eu encore une autre version avec des dialogues parlés, donc dans le style opéra comique. Et c'est cette version-là qu'on a ici, à la bibliothèque. Donc, encore de nombreuses partitions chant piano dans ce catalogue de 1909. Et puis, on a aussi un renforcement de l'apprentissage du clavier avec l'entrée d'une méthode qui s'appelle la méthode Le Carpentier pour les enfants, mais elle était déjà très ancienne. Alors là, on peut vraiment parier sur un don, parce que peut-être que dans le cadre d'un achat délibéré, les sociétaires auraient peut-être choisi la fameuse méthode rose qui existait déjà au début du XXe siècle et qui s'est prolongée comme de nombreux enfants ont pratiqué la méthode rose. Le catalogue de 1912, qui est un supplément au catalogue de 1909, mentionne aussi les suppléments musicaux de l'Illustration. Le magazine L'Illustration éditait un supplément avec des partitions, c'est généralement des courtes pièces pour piano ou pour piano et chant. En 1920, les partitions piano-chant constituent toujours l'essentiel du fond musical, avec tout le répertoire lyrique qu'on connaît déjà, un peu augmenté, deux opéras comiques et une opérette d'Edmond Audran, et puis aussi du répertoire un peu plus populaire, chansons de Théodore Boutrel et de Pierre Dupont, mais ça c'est déjà du répertoire ancien. Hein. Il y a des rondes et chansons populaires illustrées avec musique et accompagnement. À propos de chansons, j'ai cherché s'il y avait à la bibliothèque des petits formats. Vous savez, c'est les petits formats qui étaient vendus dans les rues à la fin du 19e et au début du 20e siècle, il n'y en a pas. Mais peut-être que leur prix modique devait rendre possible l'achat personnel sans qu'il soit besoin d'en avoir en prêt. Dans les années qui vont suivre le catalogue de 1920, on a vu que le rayon des ouvrages sur la musique s'était enrichi de monographies. Mais après 1920, c'en est totalement fini des partitions lyriques piano-chant. Oserais-je dire que le cinéma est advenu et qu'il a répondu en partie à un besoin de spectacle que des classes populaires assouvissaient aux places sans visibilité des opéras et des théâtres lyriques ? Peut-être. Je ne veux pas, à partir des rayons de la bibliothèque, avancer une théorie qui demanderait à être fouillée et étayée, mais il y a peut-être là un brin de vérité. On n'avait plus besoin de ces partitions permettant de suivre un spectacle. En tout cas, cette prédominance sur plusieurs décennies des partitions d'opéra me semble vraiment intéressante parce qu'elle constitue un véritable équipement qui a été mis à la disposition des sociétaires pour aller au contact d'un autre monde. Voilà. Bon.